Les nuits de France Culture.
S'il est une ville au monde qui incarne la musique rock bruitiste, c'est Détroit. La ville industrielle du nord-est des États-Unis, aujourd'hui complètement sinistrée, fut l'épicentre d'une petite révolution musicale à la fin des années 60, avec l'apparition de groupes tels que les Stooges, emmenés par Iggy Pop, et bien sûr le MC5 pour Motor City 5. Ces deux formations et bien d'autres posèrent les bases du punk rock et du hard rock à grands coups de Larsen, de riffs de guitare saturés et de prestations scéniques aussi énergiques que chaotiques. À Détroit, en ce temps-là, le chaos n'envahissait pas seulement les salles de concert, il était omniprésent, notamment dans les tensions raciales et les violences policières. En juillet 1967, la ville fut le théâtre d'émeutes particulièrement violentes, 43 morts et des centaines de blessés. Partout aux États-Unis et notamment dans la presse, on s'interrogea sur les causes et les origines de ces violences. Au début des années 1970, l'une des plus grandes plumes de la presse musicale choisit de s'installer au beau milieu de cet environnement agité pour en capter toute l'énergie désordonnée. Ce journaliste s'appelait Lester Banks. Il a disparu prématurément en 1982, à seulement 33 ans, non sans avoir écrit certains des plus grands textes du journalisme musical américain. L'émission que voici est le deuxième volet d'une série de Chemins de la musique consacrée à sa courte vie et à son œuvre, et notamment à ce que cette œuvre doit à la ville de Détroit. Le rock de Détroit, ou guide raisonnable pour horrible bruit, c'est le titre de cette émission de Marc-Alexandre Milenvoie, diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 juin 2000.
I haven't thought about Lester.
Lou Reed.
In ages. I don't think any, you know. We weren't really that close.
Lester Banks.
À la base, j'ai développé mon mode d'interview en posant aux artistes les questions les plus insultantes qui soient. Parce que le niveau de critique est terriblement ennuyeux, qu'il faut jurer obédience aux rockstars qui sont des personnes comme les autres. Ce sont des gens comme les autres. Le rock, c'est quelque chose qui doit vous faire sentir en vous. C'est quelque chose qui reste humain. Pour moi, le rock, c'est Elvis, Hank Williams ou Charlie Mingus.
J'étais de toute évidence brillant. Un artiste doué, un mâle sensible qui n'avait pas peur de montrer ses faiblesses. L'une des rares personnes ne comprenant réellement ce qui n'allait pas dans notre culture. Sujet sur lequel je parlais, donnais des leçons improvisées sans arrêt, surtout quand j'étais ivre, ce qui arrivait fréquemment, bien que pas tous les soirs. J'étais drôle, j'avais un sens de l'humour féroce, j'étais un individu vraiment unique et imprévisible, un artiste rock. J'étais probablement, sinon aujourd'hui, du moins demain, candidat au titre de meilleur écrivain d'Amérique. Qui était meilleur? Bukowski? Brooks? Hunter Thompson? Laissez tomber, j'étais le meilleur. Je n'écrivais pratiquement que des chroniques de disques, et encore pas tant que ça.
Aujourd'hui, le rock de Détroit, ou guide raisonnable pour horrible bruit.
The girls can't stand it when they're doing it right. Let them up on the stand and let them kick out the chair. Yes, kick out the chair.
En 1970, aux États-Unis, le rock a fini par se dissoudre dans le LSD et dans l'idéologie flower power dominante. Les groupes contestataires ne représentent plus de danger ni pour l'autorité, ni pour le conformisme culturel. La tendance est au discours lénifiant de John Lennon sur la non-violence. Les prêtres de l'ère psychédélique, comme Syd Barrett ou Brian Wilson, ont le cerveau sérieusement ramolli par l'abus des drogues. Jimi Hendrix et Janis Joplin sont morts. le Velvet Underground n'existe plus. La presse rock est en crise. Des journaux comme Rolling Stone, qui ont enfin acquis la crédibilité à laquelle ils aspiraient, tardent à se remettre en question et, en s'enferrant dans la certitude d'être devenus la voix de la jeunesse, ne sont plus à l'affût des nouvelles musiques de la contestation.
Chris Gaul appelle ça du skronk. J'ai toujours opté pour horrible bruit, plus évident. Guitare et voix humaines en sont les vecteurs de base, bien qu'au fil des années, pratiquement tous les instruments aient été mis en œuvre, ainsi que la vaisselle cassée, les couvercles de poubelle à racler et les bidons d'huile transformés en bongo, sans même mentionner les cartouches de phono, les cure-dents, les nettoie-pipes, etc. Vous pouvez sans doute pas supporter ça, mais ce truc a ses adeptes, dont moi, et son esthétique, si vous tenez à l'appeler ainsi.
Lester Banks part pour Détroit, sur la côte Est, dans le nord des États-Unis, afin de travailler pour le magazine Cream. Détroit est une ville dure, essentiellement ouvrière, connue aux États-Unis pour héberger les usines de la General Motors. En 1967, alors que l'on célèbre le Flower Power sur la côte Ouest, la ville doit faire face à des émeutes raciales d'une extrême violence.
Dans les rues, les blindés ont ouvert le feu sur les manifestants, les parachutistes ont pris position, les gardes nationaux ont reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Déjà, on dénombre 21 morts, il y en a peut-être davantage. Dans la seule nuit d'hier, plus de 1000 personnes ont été blessées et 200 sont dans un état très grave. Les arrestations ne se comptent plus, 1500, 2000 à peu près. La police, les gardes nationaux, les parachutistes font la chasse aux tireurs embusqués sur les toits. Les sapeurs-pompiers sont débordés, plus de 150 foyers d'incendie dans la ville. Le ciel est embrasé et le maire de Détroit a déclaré « La ville ressemble à Berlin en 1945 ». C'est à se dire l'ampleur de la révolte qui par moments tourne à l'émeute. Les scènes de pillage se multiplient, boutiques, magasins sont saccagés. Tôt ce matin, l'intervention des parachutistes semble avoir ramené un peu de calme dans les quartiers noirs de Détroit.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la situation à Détroit? Est-ce que vous savez où en est effectivement l'intervention des parachutistes?
Non, c'est simplement que depuis cette nuit, l'armée patrouille dans les quartiers de Détroit. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations. Comme toujours, les choses se sont calmées le matin avec le lever du soleil. Il va surtout falloir savoir ce qui se passe ce soir, c'est-à-dire lorsque nous retournerons dans la nuit.
John Sinclair, un étudiant vaguement poète de l'université de Détroit, commence à fédérer autour de lui un noyau de militants violents qui se regroupent autour du White Panther Party, un groupe activiste prenant la révolution sous toutes ses formes, politique, artistique et musicale, par le biais du groupe MC5. Parallèlement, les Stooges d'Iggy Pop inventent un rock oppressant et bruitiste, où les paroles n'ont plus vraiment d'importance, où chaque concert devient une performance. C'est dans ce contexte que Lester Banks arrive au comité de rédaction de Cream, aux côtés d'un autre journaliste, Dave Marsh, membre du White Panther Party. Dave Marsh.
J'ai rencontré John Sinclair en 68. J'avais vu le MC5 en live plusieurs fois. Et je suis arrivé à l'université de Wayne State. À cette époque, le MC5 donnait pas mal de concerts aux alentours. J'avais un ami dont le frère avait fait de la prison avec Sinclair, la deuxième fois qu'il s'était fait arrêter pour possession de marijuana. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec eux. commencé à écrire dans le journal de l'université, South End, qui était très politique.
Sinclair
était un type très charismatique, très grand, qui aimait éveiller la conscience des gens, un type sauvage. C'était un poète, un prêcheur. Il était très enthousiaste. Il aimait amener les gens à sa conception de la révolution, pour faire comprendre son importance culturelle. Il n'y avait pas vraiment de structure du White Panther Party. Cela ressemblait plutôt situationniste, quelque chose comme ça. Pas proprement parler une organisation, mais plus une idée. Une idée que nous partagions avec des gens de Berkeley, de New York et de Chicago. Avec certains groupes de hippies aussi. Nous n'avions pas réellement d'organisation, nous étions plus rassemblés autour d'une idée. Nous étions formés autour de la guerre du Vietnam. On voyait finalement le gouvernement comme quelqu'un qui voulait vous assassiner ou vous faire tuer ou s'en foutait pas mal si vous vous faisiez assassiner.
On the ground, that came up very little.
Nous battions aussi pour l'égalité des races et la légalisation des drogues.
Vous savez,
on pourrait dire sans trop se tromper que Détroit est probablement la ville la plus raciste du nord des États-Unis. C'était la guerre à Détroit. Tout avait brûlé en 67. Les flics n'aimaient pas les types aux cheveux longs, ils n'aimaient pas les noirs. Et donc, une communauté s'est formée, parce qu'il y avait des leaders comme John Sinclair qui essayaient de rassembler ces gens.
And the White Panther thing came out partly, I don't know, I mean, in some ways you can look back and say, well, partly it was the MC5 fan club.
On peut dire que les White Panthers étaient le fan club du MC5.
But what did it mean to be an MC5 fan?
Mais qu'est-ce que ça voulait dire?
At some level, you were committed to some ideals.
Ça voulait dire espérer changer la société.
We knew that one difference between us and a northern industrial city
and une ville industrielle à la côte ouest,
that non-violence wasn't even an option.
Et que la non-violence n'est en aucun cas une solution.
Really like getting beat up, you had to think in terms of self-defense at some level.
Attention, en termes de self-défense. Alors nous nous sommes alliés aux Black Panthers, même s'il y a aujourd'hui un malentendu à cause du nom. Les gens pensent que tout cela a à voir avec la suprématie blanche, alors qu'en fait c'était exactement le contraire. Nous étions vraiment des libertaires. Nous nous battions pour l'égalité des races, pour la justice sociale, la liberté en ce qui concerne les drogues et le sexe, la musique dure. En cela, nous étions assez proches de ce qui a pu arriver plus tard avec le punk en Angleterre.
Créatures de plus en plus étranges qui cessèrent de vivre pour devenir des zombies déboussolés, ou le jour où les ondes entrèrent en éruption. Cream, 1975.
Le front de libération de la télé prend d'assaut CBS, ABC, PBS et des indépendants tremblants d'une côte à l'autre. Des fanatiques de gauche brûlent des filmothèques, font part de leurs exigences, la FCC parle de complot maoïste et appelle la garde nationale.
Washington, D.C. M. Susskind, membre de la FCC, a déclaré aujourd'hui que les récents actes de violence et de vandalisme contre les stations de télévision dans chaque État de l'Union étaient le fait d'un vaste réseau de conspirateurs dont l'étendue fait chanceler l'imagination de tout homme raisonnable. Il a ajouté que ce réseau était essentiellement composé de drogués à l'héroïne, d'étudiants devenus psychopathes suite à l'emploi de drogues hallucinogènes, de maîtres chanteurs politisés et de prostituées des deux sexes, pour reprendre son ironique formule, des camés, des fêlés, des fumiers et des pédés menés par une obscure cabale de dissidents agissant sur ordres spéciaux de la Chine rouge. Aux dernières nouvelles, la station de Pow Pow ne diffusait plus que des vieux dessins animés de Popeye, Bugs Bunny et Donald Duck, mêlés à 1952 épisodes de Dragnet et de Inner Sanctum. La station de Clovis ne montrait rien d'autre que des jeunes gens à cheveux longs errant dans le studio, enlevant leurs vêtements, se livrant à des actes sexuels et braillant des obscénités en direction de la caméra. Au bout de 5 heures environ, déclarent les téléspectateurs, ils ont semblé se lasser et se sont mis à courir vers les caméras en faisant des grimaces. 45 minutes plus tard, on ne voyait plus qu'un groupe d'entre eux avachis contre les murs, vautrés sur des sofas ou sur le sol, fumant de la marijuana ou buvant du vin et parfois rotant ou faisant des gestes obscènes en direction de la caméra. Les témoins ajoutent qu'aux petites heures de l'aube, un jeune homme aux yeux exorbités qui ne tenait pas en place et paraissait en proie à une hystérie provoquée par la drogue, a commencé une harangue proférée si rapidement et qui semblait si incohérente que rares sont les téléspectateurs qui ont pu en comprendre plus de deux ou trois mots à la fois. Elle s'est poursuivie pendant 13 heures et, dit-on, fut brutalement interrompue quand deux conspirateurs costauds et barbus arrivèrent sur le plateau et s'emparèrent avant de le rouer de coups du jeune homme que personne n'a revu depuis. Bien entendu, actuellement, tout ceci est encore un fantasme. Mais où croyez-vous que toutes les grandes révolutions ont commencé, sinon par les fantasmes? Comme Marx tirant sur un joint dans le troisième box des toilettes pour hommes du British Museum, comme le rêve sorti d'une pipe d'opium Cécile B. de Milesque du président Mao de voir des millions de paysans chinois militants dévaler les collines afin d'écraser la tyrannie et la transformer en engrais pour les vastes champs de céréales du plan quinquennal, comme John Sinclair vibrant à l'idée d'une nation entière de jeunes pubères farouchement vivants, défonçant les vitrines des boutiques de disques pour avoir les produits qu'il leur fallait et qu'ils méritaient, guidés par le MC5 comme par une internationale sortie de l'apocalypse, comme tous ses précurseurs. J'ai la vision d'un pluralisme vidéo infiniment grisé.
Les concerts du MC5 sont sans doute le déclencheur de l'affirmation du style de Lester Bangs. Une pure explosion sonore, des morceaux joués à 100 à l'heure, avec un seul objectif, produire plus de bruit que le décollage d'un avion, plus de nuisances sonores que les chaînes de montage de la General Motors. Les critiques, les musiciens ou les philosophes ont réfléchi depuis longtemps sur le problème du bruit. Au Moyen-Âge, il existait un certain type de bruit que l'on pourrait aujourd'hui nommer « bruit sacré », qui était non seulement absent des listes de bruits interdits que dressent de temps à autre les sociétés, mais en réalité invoqué tout à fait délibérément pour rompre avec l'ennui de la tranquillité. Pour Varèse, le bruit n'était qu'un son que l'on a du mal à supporter, avec toute la subjectivité que cela implique. « Où que nous soyons, nous n'entendons que du bruit », disait John Cage. « Quand nous l'ignorons, il nous dérange, et quand nous l'écoutons, il nous fascine ». Mais lorsqu'il est revendiqué comme dans les concerts de free jazz, les performances des Stooges ou du MC5, il se fait la voix des opprimés et des marginaux. Dans sa thèse sur le bruit, Jacques Attali considère qu'on ne peut séparer les enjeux de la musique et du bruit de ceux du contrôle des masses. Qualifier une musique de bruit, c'est demander tacitement sa censure ou son élimination. La musique de Détroit représente pour les journalistes de Cream un retour à un art combatif, à la revendication de l'urbanité, à un appel au soulèvement pour la lutte armée. Peu importe que les paroles soient la plupart du temps noyées dans le mix sur les albums ou quasiment inaudibles lors des concerts, l'important est de faire corps avec le son et de ressentir la musique de manière physique. Explosion, liquéfaction, arythmie et feedback deviennent les bases de l'esthétique défendue par Lester Bangs, appelant de ses voeux le cri perçant, le miaulement, le grincement noueux de la tronçonneuse, le sifflement qui décapite. LA Blues, des Stooges, sur l'album Funhouse.
C'est un peu à cause de tout ça qu'une musique beaucoup plus dure est née à Détroit. C'est aussi en réponse à l'environnement. Mais aussi parce qu'il y avait des gens, ici, qui essayaient de faire la jonction entre le free jazz et le rock.
Non
de manière formelle, mais plutôt au niveau de l'énergie que pouvait déployer le free jazz. Les Stooges en sont la version simple et le MC5 la version élaborée.
Le
MC5 a commencé comme un groupe de garage. Il a commencé à incorporer des éléments de science-fiction, mais aussi free jazz dans le rock pour rassembler ses idées et rajouter de la basse et de la batterie. Et il y avait les paroles de Rob Tyner.
Extrait du texte, le pop, les tartes, le pied, un programme de libération de masse sous forme de critique d'un disque des Stooges ou Qui est l'imbécile ? Cream, 1970.
Ainsi, Pour rendre plus facile la nécessaire libération psychique de masse, il est impératif que nous commencions par l'œil du cyclone, le centre de toute confusion, querelle et franche déblatération. Iggy Stooge lui-même. Je ne l'ai certes jamais rencontré, mais d'après ce que j'ai cru comprendre en écoutant ses disques, en suivant son jeu de scène et tout ça, c'est fondamentalement un môme américain, gentil et sensible, qui a grandi au milieu de la pire confusion personnelle, interpersonnelle et nationale que nous ayons jamais vue. Entendez, on ne trouverait qu'en Amérique et nulle part ailleurs un phénomène comme Iggy Stooge.
Comme Kerouac essayait de transcrire le rythme du bebop dans ses écrits, Lester Bangs, dans ses comptes rendus, se laisse gagner par le bruit libérateur du MC5 ou des Stooges. Son style devient dissonant, rempli d'hyperboles, de phrases interminables ponctuées d'une grande claque. Très vite, l'influence des Stooges et du MC5, combinée à l'influence grandissante de Cream, les articles et l'enthousiasme de Bangs propulsant rapidement les ventes du magazine juste derrière celle de Rolling Stone, donne naissance à une nouvelle scène, le heavy metal, avec des groupes comme Black Sabbath, puis au punk rock. C'était la deuxième partie des Chemins de la musique consacrée à Lester Bangs. Aujourd'hui, le rock de Détroit ou Guide raisonnable pour horrible bruit. Demain, brûler les idoles.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 juin 2000. À suivre.